Chapitre 14. C'étaient trois cheminots du bagne. Les trois cheminots du bagne commencent une nouvelle station. Ils reprennent la mer pour descendre jusqu'à l'Amazone. Et c'est là, sur ces rives de légende, que Belém est construit. Il reste en tout, le canoë payé, 14 grammes d'or et un billet de 10 000 reis, 33 francs. Pas de travail, partant pas de pain. Comme ils jeûnent, ils sont malades. Ils embarquent à Monténégro d'Amapa, où les mouches à dagues, sans doute pour les guérir, leur font des pointes de feu. Celui qu'ils appellent l'autre est à bout et jeûne dans le fond du canoë, entre deux ballots de poissons secs. Il délire tout le temps, reprend Dieudonné. Non, non, dit-il, vous ne ferez pas ça, monsieur le directeur. Il est loin, le directeur, lui envoie-t-on. Il est à Saint-Laurent du Maroni. On va vers l'Amazone, tu entends, réveille-toi. Et il sort de son cauchemar pour y retomber. Il nous faudra 6 jours de ce canot pour atteindre l'Amazone. Je l'ai pas, ce n'est que de la faim. Les durs matelots ne sont pas compatissants et mangent devant nous sans rien nous donner. De la maladie, du chagrin, le chagrin de ceux qui n'ont pas la chance avec eux. Mais dans l'histoire, cela n'est rien. Ce n'est pas plus que l'accompagnement monotone d'une guitare pour une chanson. Je passe donc, hein. Bon, bien voici l'Amazone. Alors là, je dois vous dire mon opinion. C'est tout de même rudement beau à voir. Ni l'autre, ni Jean-Marie, ni moi, pauvre bougre, n'avions jamais pensé voyager un jour, tout comme des explorateurs, sur le fleuve le plus mystérieux du monde. Et c'est ce que le sort nous réservait pourtant. C'est trop joli, cela ne doit pas être pour nous, disait Jean-Marie. On longe une rive. Nous ne voyons pas l'autre, il s'en faut. C'est le matin, l'eau est vert tendre. Des feuilles, des branches, des arbres entiers accompagnent le courant. Ah, voici déjà des maisons. Plus loin, une scierie mécanique, puis un phare, deux phares. Oh, nous arrivons chez les hommes. Il y avait 68 jours que nous nous étions évadés. Alors voir des fumées sortir des toits, voir un tramway. Oh, le tramway surtout nous bouleversa. On riait. Et il marchait, vous savez, le tramway. Et il marchait vite, c'était épatant. Et l'autre, lève-toi, regarde. C'est Paris, demande-t-il. Des toits, des hommes, un tramway, des bicyclettes. Il fait un et repose sa tête sur son sac puant de poissons séchés. « Courage, il va falloir te tenir sur tes pieds, essaye !»« Nous préparons nos besaces et la sienne. » Un havre aux rives boisées, le canoë l'aborde, un appontement de bois. Nous sommes à Vigia. Un vieux nommé éloigné nous crie « Hep, hep !» Il parle français et nous demande de le suivre. « Oh, ce que nous avons l'air de posséder des biens !» On se regarde. Les habitants s'arrêtent et nous contemplent avec beaucoup de curiosité. Nous entrons à la douane. Oh, il sait qui nous sommes, pardi. Vous allez à Belém, demande-t-il. Oui, c'est tout ce que nous avons à déclarer. Eh bien, allez-y, fait le vieux bonhomme. Il nous reste 4 000 reis et 5 grammes d'or en tout, pour tout et pour trois. La première station de chemin de fer est à Santa Isabel, à 60 kilomètres. Une fois par semaine seulement, une auto relie les deux villes. Coût 10 000 reis chaque place. Nous courons tout Vigia à la recherche d'un emploi. Nous entrons dans une scierie, on ne veut pas de nous. C'est l'autre qui doit nous faire du tort, tellement il a l'air de vouloir mourir. Nous le couchons dans une impasse. Nous repartons. Pas de travail au port, c'est d'ailleurs qu'un appontement. Un tailleur chinois ne veut pas de nous. Pour Pourtant, nous savons coudre. On s'informe s'il y a des meules pour le manioc. Nous pourrions nous embaucher comme mulets. Pas de meules. Le soir tombe, rien à espérer ici. Nous avons encore trop l'air bagnard. Bon, une seule solution, abattre les 60 km à pied. On retrouve l'autre dans le fond de son impasse. Il nous suit. Nous prenons la route de l'autocar. 9 h du soir, la route coupe la forêt. Nous trébuchons dans les ornières. Il pleut, aucun abri. Oh, marchons. Peux-tu suivre, toi, l'autre? Il marche un peu en arrière, mais il marche. La nuit est sans lune. J'entends les dents de Jean-Marie qui claquent. Un accès de fièvre. Depuis longtemps, on n'avait plus de quoi acheter un pain. Et on se passait aussi de quinine. Nos pieds sont déchirés par les cailloux. Le sable, la terre, l'eau, nos chaussures, tout cela ne fait qu'un seul poids à traîner. De plus, Jean-Marie a sa malaria. L'autre se crève et moi, ma jambe gauche. Nous buvons l'eau qui coule le long des arbres. Jean-Marie ne peut pas. Il tremble tellement qu'il casserait ses dents contre l'écorce. On marche en suivant le fil télégraphique, en le devinant plutôt. Ce sont 3 forçats en promenade. Au matin, nous avons fait 20 km. Nous tombons, nous sommes et nous dormons. 1 heure après, nous reprenons la route. C'est dur de repartir. Nous marchons tout le jour, nous arrêtons souvent. Il y a des bananes, nous en prenons, la nature nous les donne. Les maisons des villages que nous traversons sont en vases compressés. Oh, qu'il ferait bon là-dedans 1 heure, 1 nuit. Les habitants ferment leurs portes. Les chiens aboient, les enfants nous montent de loin. La nuit revient. L'autre suit comme un automate. Il n'a pas dit un mot depuis 24 heures. Mais il n'est pas mort puisqu'il marche. Il pleut. Nous marchons toute la nuit. Longtemps après notre passage, les chiens hurlent encore. L'eau tombe par trombes. Nous avisons une masure. L'autre s'écroule contre le mur et ne bouge plus. Oh, on s'écroule comme lui. Je me retiens pour ne pas tousser. Là, tout l'emporte. 2 chiens aboient, nous trouvent et n'en finissent plus. On remue dans la masure, alors nous reprenons la route inondée. Mais 500 mètres plus loin, nous nous dirigeons tous les 3 vers un poteau télégraphique. Et on s'assoit autour. Il doit être 3 heures du matin. Et on repart. L'autre suit en parlant tout seul maintenant. Il délire debout. Enfin, pour l'instant, il ne nous retarde pas. Les coqs chantent au matin. Au loin, des lumières électriques pâlent dans le jour qui vient. Attiré par elles, l'autre semble remonter. Il marche comme un pantin à manivelle, si vite qu'on ne peut plus le suivre. Il ne parle plus, mais il comprend encore. Il a compris que c'était la gare de Santa Isabel. Il a fait 60 km à pied, en pleine agonie. Il arrive, il s'effondre. Le train s'en va à 4 h du soir pour Belém. Les jours ordinaires, cela coûte 1 200 reais. Aujourd'hui, dimanche de carnaval, paraît-il, le prix est de 2 900 reais. On en pleurerait. On n'a pas de quoi prendre le train. Des gens s'approchent. On leur vend notre plan. On trouve toujours à vendre cet instrument. C'est si peu ordinaire. Une femme nous achète des bananes. Maintenant, nous avons l'argent. 4 h arrivent. Nous montons dans un wagon. Des banquettes. Oh, on s'assoit, un peu halluciné par la souffrance et la faim. Des marchands de gâteaux font circuler leurs paniers. Tout le monde mange. Nous nous tenons raides et dignes et regardons par la portière pour ne pas voir les pâtisseries. 12 petites stations dans la forêt amazonienne, puis Belém. L'autre vit encore. Chapitre 15. Sous les confettis. Belém. Il est 8h12 du soir. Santa Maria do Belém do Pará. Nous descendons du wagon, traînant l'autre. Nous sommes arrivés. Mais passons-nous inaperçus. Nous mettons pour la première fois le pied dans une ville organisée. Il va falloir compter avec la police. Jusqu'ici, nous n'avions abordé qu'à des dégrades perdues. Nous sortons de la gare. Ces lumières nous aveuglent, nous grisent. J'ai l'adresse d'un camarade évadé depuis 6 mois. Où est-ce? Dans quelle direction? Aucun de nous ne parle encore portugais. Je décide d'aller seul du côté du public et de montrer l'adresse écrite sur un papier. Je pars, j'hésite avant d'aborder un passant. Je choisis une dame. Elle est un peu étonnée, je suis tellement sale. Une barbe repoussante et mes souliers surtout. Mais j'ai ma casquette à la main et mon regard ne doit pas être celui d'un homme dangereux. Elle me montre un tramway et m'indique que c'est tout au bout. Je reviens trouver les deux loques. On voudrait prendre le tram, mais on ne sait combien cela coûte. On ira à pied. L'autre, qui est à sa toute dernière extrémité, parle le premier, mécaniquement. Nous suivons les rails, nous sommes malades, en guenilles, affamés. La ville est toute illuminée. Une musique joue, la population est en fête. C'est le dimanche du carnaval. De fenêtre à fenêtre, à travers la rue, les gens se lancent des serpentins. Les autos passent, remplis de pétards qui s'envoient des confettis. Les jeunes hommes aspergent les femmes de parfums. Elles répondent à coups de petites boules en celluloïde. Place de la République, les globes électriques blanchissent les visages. Des voitures où hommes et femmes pincent de la guitare tournent autour de la place. Cela fait un jovial carrousel. Nous sommes couverts de confettis. Nous avons faim. Nous regardons les restaurants, les pâtisseries. Des badauds, des masques nous empêchent d'avancer. Alors nous écoutons les orchestres du Grand Hôtel et du Café d'Apas. L'autre est héroïque. Oh, il reste dans la fête comme s'il était venu spécialement pour elle. On le soutient, nous avançons. Une rue, deux rues. Nous demandons 10 fois, enfin, voilà l'impasse et le numéro. Une baraque me frappe. Ici, je dois enlever la parole à Dieudonné. Elle revient de droit à Rondière. C'est chez lui que les trois forçats se rendaient. Évadé du bagne, Rondière n'est plus à Belém. Je l'ai rencontré au Brésil, non à Rio, mais dans le sud. Il est venu m'attendre au sommet d'un funiculaire parce qu'il est né dans la même ville que moi et que nous avons peut-être joué ensemble autrefois. On frappe, commence Rondière. Oh, il était 10 heures du soir. J'étais couché. Je prends ma chandelle, j'ouvre en chemise, je regarde. Oh, je vois 3 loqueteux traînant des serpentins à leurs chevilles, la barbe remplie de confettis et les yeux maquillés par la faim. Eugène, c'est moi, dit-il. Eh ben, t'es beau. Je recule, ils entrent. Ils étaient bien abîmés. Mais combien donc t'habites tant, Eugène? Il laisse tomber d'une bouche qui a soif. 72 jours. Je donne de l'eau, du pain. Alors je m'aperçois que parmi les trois, il y a un moribond qui ferme déjà les paupières sur mon plancher. Mais qui est celui-là? Dieudonné répond, de là-bas. Ben, il faut le conduire à l'hôpital, pour lui d'abord, pour nous ensuite. S'il meurt ici, nous serons jolis. Le moribond ne pouvait plus marcher. Et nous n'avions pas d'argent pour prendre une voiture. Ah, dis-je à Jean-Marie, tu es fort, toi, moi aussi. On le portera à la chaise morte. Comme ces carnavals et la rigolade dehors, les gens croiront qu'on s'amuse. Je m'habille, j'empoigne l'autre, comme s'il l'appelait, et on sort tous les quatre. On en est à 1 km de là, à la Santa Casa de Misericordia. D'abord, je le portais tout seul. Quand on entra dans le quartier de la fête, je le pris en chaise avec Jean-Marie. On causait, on riait. Je disais à Dieudonné qui suivait derrière, ramasse des confettis et jette-les nous, on aura l'air d'un groupe de bamboucheurs. Il nous en mit quelques poignées. Je repris le copain sur mon dos dès qu'on eut passé les lumières. Il ne dormait pas, oh, c'était un rude paquet tout de même. On parvint à la Santa Casa. On ne nous demanda pas de papier. Il y avait là une sœur française. Elle en avait vu arriver quelques-uns de la même espèce. Elle savait d'où ils venaient. Encore un, dit-elle. Eh bien, il est mort le lendemain matin. Ce fut sa belle à lui. Alors le lendemain, Dieudonné a repris la parole. Je me lave, je me rase. Un Russe nous prête 10 000 reis. Je vais acheter une chemise pour moi et pour Jean-Marie. Ça fait deux chemises alors. Une seule, non, on la mettra tour à tour, suivant les visites que nous aurons à rendre. Jean-Marie est fort, je suis maigre. Je choisis la chemise entre les deux. Je reviens, Rondière nous fait manger du pain et du beurre, et je sors pour chercher du travail. Et je vois fabrique de meubles, Casa Kislanov et Irmaes. Je me présente, on m'embauche. À 1 heure de l'après-midi, j'avais le rabot à la main. J'achète des vêtements à la Prestakos à tempérament. Je fais embaucher Jean-Marie. Je loue une chambre, je ne suis plus le forçat, j'aime Dieudonné. Mais Monsieur Michel Daniel, ébéniste. On ne peut pas s'appeler Victor Hugo, par exemple. 15 jours après, je vais à la police pour me faire établir ma canternelle, cette carte d'identité qui sort de tout en Amérique du Sud. J'ai le certificat de ma logeuse, celui de mon patron. Je donne ma photo. Officiellement, je suis Monsieur Daniel. Mais on est presque heureux, Jean-Marie et moi, maintenant. Tout le monde nous accueille bien. Notre patron nous augmente. Il veut me nommer contremaître. Je refuse pour éviter les jalousies. Puis arrive Pinedo, vous savez, l'aviateur italien. Je sortais du tombeau et n'avais rien vu depuis 15 ans. Cet enthousiasme. Ah, être libre d'acclamer et d'applaudir. J'achetais tous les soirs la Folia da Norte. Ce soir-là, oh, c'était le 25 mai. Je l'ouvre, je pâlis, Jean-Marie pâlit. Ma photo était en deuxième page. Je lisais le portugais depuis 2 mois. Moi, l'article n'était pas méchant, mais il disait que la police française avait signalé à la police brésilienne qu'Eugène Dieudonné, évadé de Cayenne, devait être dans l'état de Pernambuco ou dans celui de Pará. Je revis le bagne. Nettement, oh, ce fut atroce. Et puis je me décidai de me suicider plutôt que d'y retourner. Et j'eus comme un soulagement. À l'atelier, le lendemain, rien ne changeait. Ma propriétaire m'appelle toujours Monsieur Daniel. Aucun chien ne lève le nez pour me regarder. Une semaine passe, rien. Une autre, puis d'autres. Et le 14 juin, à 11 heures, je sors de mon atelier. Il fait très chaud. Je prends, comme chaque jour, le chemin de mon restaurant, l'Estrella da Sera. Oh, j'ai très soif. J'entre dans la pension, je me verse un verre d'eau et je le buvais alors debout, lorsque quatre hommes, assis à la table voisine, se dressent. Ils m'entourent, il me reste le verre aux lèvres. C'étaient quatre investigadores de la police. Suivez-nous! Chapitre 16. D'étonnement en étonnement. Ma chambre à Rio de Janeiro est vaste. Cela permet à Dieudonné de se promener à grands pas. Oh, français encore! Ces quatre-là n'avaient dû apprendre le français que pour venir un jour derrière moi me dire « Suivez-nous ». Peut-être étaient-ce les deux seuls mots qu'ils connaissaient. Alors quoi? Oh, Dieudonné s'emballe, ce souvenir-là ne lui vaut rien. Oh, j'entendrai toujours ce suivez-nous. Je posais mon verre, je les regardais en face, l'un après l'autre, et je dis, ben voilà, emmenez-moi. Au sorti, il ne m'avait pas mis les menottes. À peine à 100 pas du lieu, Jean-Marie, qui allait déjeuner, aperçoit le groupe. Il reste pile sur le trottoir. Ah, voilà le magasin de nouveautés où j'ai acheté à tempérament le costume que je porte. Je dois encore 20 000 reis dessus. Comment le paierai-je? Je ne gagnerai plus rien. On va pouvoir dire que je suis un escroc. Jean-Marie me suit, m'accompagne à distance. Il est fou, mais il doit bien se douter où on me conduit. Et voici la prison. Les investigadores n'ont pas besoin de me guider. Je ne l'ai jamais vue, mais je la reconnais. C'est une écurie que l'on m'a appris à sentir de loin. J'y entre le premier. J'attends à deux portes. On les ouvre, je les franchis. Je constate que le bruit d'une porte de prison qui se referme est le même dans tous les pays. On me met dans une cellule. J'ai retrouvé mon domicile attitré. J'étais en voyage depuis plus de 6 mois et je suis rentré chez moi, voilà. Mais quel mal ai-je fait? Je travaillais 9 heures par jour. J'étais couché à 10 heures. Le dimanche, j'apprenais le portugais. Je saisis les barreaux de ma cage et je restais là, regardant dans le couloir. Oui, c'était l'heure où je me rendais à l'atelier. Mais que va dire le patron qui voulait faire de moi son contremaître? Je dois 6 jours de chambre à ma logeuse. Pauvre Michel Daniel, on ne veut pas que ta tête remonte sur l'eau. Une porte grince, des pas résonnent. Que vois-je, Jean-Marie, entre deux gardiens? Je tourne comme une bête dans ma cellule. 1 heure passe. Oh, elle passe mal. Un surveillant ouvre ma cage et gracieusement me fait signe de le suivre. On me conduit à la direction de la prison. Un monsieur est là, jeune. Il dit, je suis Antonello Nello, deuxième préfet de police. Il me fait asseoir. Vous êtes Michel Daniel? Non, je suis Eugène Dieudonné, évadé de la Guyane française. Je vous remercie de n'avoir pas voulu me tromper. Sur son bureau, une collection de journaux français du temps du procès, le livre de Victor Méric, Les bandits tragiques, puis un dossier. Depuis longtemps, Dieudonné, je connais votre cas. Nous, policiers, nous nous intéressons aux grands procès internationaux. Mais je vivais honnêtement de mon travail, pourquoi m'avoir arrêté? Il sourit et lève un doigt comme pour me dire, moi, je vous dirai cela plus tard. Il me lit un procès-verbal que je dois signer, m'expliquant en français les termes que je comprends mal. La pièce est simplement pour me faire déclarer que je suis bien Eugène Dieudonné, l'évadé. Il demande doucement si je veux signer. Je signe. On vient d'arrêter l'un de mes amis. Pourriez-vous me mettre dans la même cellule que lui, monsieur le préfet? Mais avec grand plaisir. répond-il. Il se lève et me serre la main. Oh, cette politesse, cette main tendue, je n'avais jamais rien vu de plus renversant au cours de ma vie de prisonnier. Je demeurais interdit. Et l'on me conduisit dans la cellule de Jean-Marie. Il n'était pas seul, un troisième évadé était là, Paul Vial. Et je leur dis que le deuxième préfet de police venait de me serrer la main. Ah, c'est peut-être l'habitude au Brésil, dit Jean-Marie. Nous divaguons toute la nuit. Et au matin, Jean-Marie et Paul Vial sont appelés à la centrale. Je les ai plus revus. On leur a fait prendre le Casipour. Le Casipour? Oui, un bateau brésilien qui tous les mois va de Belém à l'Oyapock. Oui, on les a ramenés à la Guyane. J'avais deviné cela le soir même dans ma cage. Ah, moi, je ne prendrai pas le Casipour, m'étais-je dit, je me pendrai. Je ne cessais pas, évidemment, d'écouter Dieudonné, mais je dois dire que ce fut tout de suite avec un léger petit froid dans les oreilles. Le lendemain 16 juin, on ouvrit ma cellule. On me dit de prendre mon chapeau, de rattacher mes souliers, et on m'emmena. On m'emmena me promener. Nous quittons la prison. Le gardien qui m'accompagne cause gentiment avec moi. Mais tout cela est invraisemblable. Agisse-t-il ainsi pour que je m'évade? Ce n'est pas une façon de garder un prisonnier. Nous arrivons à la préfecture de police, on prend l'ascenseur. Mais est-ce que le préfet m'attendrait pour m'offrir le thé? Au premier étage, le guide me dit de m'asseoir et il disparaît. Je suis seul. Oh, je n'aurai qu'à descendre l'escalier et à m'en aller. Mon gardien revient. Venez, monsieur Dieudonné. Il ouvre une belle porte. Je suis dans le cabinet du préfet de police de l'état de Pará, le docteur Paolo Pinheiro. Il est à son fauteuil. À côté de lui, le deuxième préfet. Je reste debout. « Asseyez-vous, » me dit le premier. Et le second me demande, « Vous allez bien ?» Ils parlent tous les deux. J'entends les mots « Guyane »,« Franca »,« Pernambuco ». Ils regardent les fiches. Le deuxième préfet insiste. « Trabalhado, honesto », cesse-t-il de répéter. Ils ont devant eux les déclarations des frères Krislanov, mes patrons, des frères Fernandez, mes restaurateurs, de Donna Maria, ma logeuse. « très bon, » fait le préfet. Il me dit, « j'ai écrit au ministre à Rio. » Puis il sonne, mon gardien apparaît, il lui parle en portugais. Le préfet me serre la main et on m'enferme dans une pièce à côté. Un fauteuil, un lit, un grand stock de bottes de gendarme. Oh, les braves bottes! Je m'étends sur le lit. Le gardien prend le fauteuil. On entre, c'est le préfet de police. Il déloge le gardien, approche le fauteuil de mon lit et s'installe. Il cause avec moi en bon français. Je lui raconte mon évasion. Alors, il fait apporter de la limonade, et lui, assis comme un pacha, moi, couché comme une princesse, je parle et il m'écoute 4 heures durant, non sans trinquer de temps en temps. Et après, il me dit, « Je vais vous faire conduire à la Cadilla de San José, on y est beaucoup mieux. » Je pars à pied, sans menottes, fumant les cigarettes de la préfecture. Le lendemain, le préfet vient me voir. Pendant les 8 jours que je reste là, il me rend visite 4 fois. À la fin, il me dit, « Bon, vous serez vieux dehors. Allez, voici ma carte, vous êtes libre. » Et je sors avec lui. Je reprends mon travail, je réoccupe mon logement, je m'installe à ma pension. Tout le monde me reçoit avec enthousiasme. 2 jours plus tard, je vois arriver chez Krislanov, un policier de ma suite. Il me dit bonjour, me serre la main et m'annonce qu'il doit de nouveau me conduire en prison. Je pose le rabot. Ce n'était pas une blague, il me ramène à la prison. On m'enferme dans ma cellule. Mon cerveau, heureusement, était solide. Chapitre 17. Le ministre de la Justice veut vous voir. Le mur du bagne est dur à escalader. Comptez, dans la première pirogue, 6. L'un est mort, l'autre, 3 autres sont repris. Jean-Marie rentre au bagne sur le quasi-pour. Et moi, je suis assis sur mes dalles, derrière mes barreaux. 5 dans la seconde pirogue. Ne parlons plus de Jean-Marie ni de moi. Le troisième, mort. Les 2 autres, après 4 mois, ne sont pas encore signés à Bellem, ce qui signifie qu'ils n'ont pas réussi. Et que s'était-il donc passé pour Jean-Marie et vous? Oh, lors de notre évasion du bagne, la Sûreté de Paris fut aussitôt prévenue. Elle télégraphia au Brésil. L'État de Pernambuco, qui avait peut-être d'autres soucis, commença par ne pas se soucier de moi. Il y avait en effet à cette époque une affaire extraordinaire, celle du bandit Lampero, dit le Lion du Nord. 2 mois passent, et le Lion du Nord décide de prendre des vacances. Il part pour les montagnes. Voilà donc une bande perdue. À ce moment, la police de Pernambuco se rappelle qu'on lui en a signalé à une autre, la bande à Bono. Elle cherche dans ses archives, retrouve le télégramme de la Sûreté à Paris et décide d'agir. On peut lire dans les journaux de Recife des articles qui font croire que la bande à Bono vient de traverser l'Atlantique et se prépare à piller l'État de Pernambuco. On y précise que l'un des principaux acteurs de cette sanglante compagnie, Eugène Dieudonné, qui était au bagne, s'est évadé de la Guyane avec de nombreux complices dans le but de reprendre au Brésil les exploits qui terrorisèrent l'État de la Seine. Tenez, dit Dieudonné en fouillant une vieille besace. Voilà ces journaux, regardez-les si je mens. La police de Pernambuco arrête les évadés de la Guyane domiciliés à Recife. Ah oui, que cela me pardonne, ils ont souffert à cause de moi. Je ne suis pas dans le nombre, mais il s'y trouve un traître. Lui sait par d'autres évadés que j'habite Bellem et que je m'appelle Michel Daniel. Alors il me vend contre sa liberté. 5 minutes d'entracte, fait Dieudonné, et un mouchard m'a toujours mis hors de souffle. Et qui était-ce? Oh, j'en soupçonne 2. Je ne puis donner un nom. Je suis payé pour savoir que l'on ne doit pas accuser sans certitude. La police de Pernambuco n'aurait plus légalement qu'à se tenir tranquille. Ce n'est pas ce qu'elle décide. Pourquoi? Me croyant un redoutable bandit, elle espère une forte prime de la France. 2 de ses as prennent le bateau. 5 jours de mer, ils débarquent à Bellem. Cela constitue le premier chapitre. Passons au deuxième acte, continue Dieudonné. Les 2 as de Pernambuco vont trouver le préfet de Pará. Il lui dévoile que son état court un grand danger. Il lui récite la fable des journaux de Pernambuco. Bien, dit le préfet, un peu surpris de posséder depuis si longtemps la peste chez lui sans s'en être aperçu. Voilà 2 de mes agents, arrêtez-le. Et on m'arrête à l'Estrella da Sera, le verre d'eau aux lèvres. Vous suivez bien? Oui, je suis. On arrête Jean-Marie, Paul, Vial, Rondière. On fait une rafle générale des évadés. Ces évadés, ne l'oubliez pas, qui devaient constituer, sous ma haute direction, la nouvelle bande à Bono. Ah, j'en ai commis des dégâts. La police de Pará, qui ne se considère pas comme aveugle, est piquée dans son orgueil. Elle avait un grand bandit chez elle, elle n'en savait rien. Elle dit au revoir. Et en 2 heures, elle fait le tour des maisons où je travaille, où je mange, où je couche. Elle ne découvre pas de bandit, mais un ouvrier assidu, un citoyen rangé. Le deuxième préfet m'appelle dans son bureau, me serre la main. Vous voyez la scène. Oui, je revois. Et le lendemain, ayant étudié mon affaire, contrôlé les renseignements, le premier préfet me reçoit chez lui. Et c'est là que nous fumons ensemble et qu'il vient bavarder 4 heures avec moi auprès de mon lit, ce qui pour le moins me faisait ouvrir les yeux autant que la bouche. Et pendant que l'on me ramenait en prison, mon sort se décidait. Parra refuserait de me livrer à Pernambuco. Les journaux, sous l'inspiration du préfet, écrivaient des phrases que je vais vous traduire parce qu'elles en valent la peine. Il fourragea dans un tas de vieilles gazettes. Écoutez, la recherche de la police de Pernambuco nous semble étrange. La présence de Dieudonné chez nous devrait du moins l'incommoder que chez celle du Lion du Nord et de sa bande. Évidemment, il est plus commode de se tailler un succès en s'attaquant à un humble forçat dont la conduite est exemplaire qu'à des bandits bien chaussés, bien armés et tout à fait décidés. Les intentions de la police de Pernambuco sont donc inavouables. Nous ne lui remettrons pas l'ébéniste évadé pour être transporté à Recife et de là à Cayenne ou à Paris. Ce serait un acte si noble, ni juste, ni humain. Bien cet article, lisez, était signé Antonio Nello, deuxième préfet. Là-dessus, la préfecture de Pará prit les policiers de Pernambuco de retourner dans leur récif. Puis elles me mettent en liberté. Et j'étais maintenant fougueusement défendu par la police. Que dites-vous des fantaisies de l'existence? Sur ce coup-là, l'ambassade de France au Brésil demande mon extradition. La préfecture de Rio transmet l'ordre à celle de Para, et voilà Para forcée de me remettre en prison. Elle m'y conduit, vous vous souvenez, après m'avoir serré la main. J'arpente ma cellule, je languis. Je ne sais rien à cette époque de ce que je vous raconte. Mes compagnons chantent. Ils chantent jusqu'à 9 heures du soir et même plus tard. La voix soutenue par des guitares et des mandolines. Cela me renverse davantage encore. Je ne comprends rien à cette prison où l'on me fait entrer, sortir, rentrer, où les autres s'amusent comme à une noce, où les gardiens m'appellent monsieur. Et tous les quarts d'heure, j'entends Sentinella, alerta! La sentinelle répond Alerta, Stone! Là-dessus, un petit air de guitare. Mais c'est du roman d'aventure. Le 7 juillet, au matin, la porte de ma cellule s'ouvre poliment. Un monsieur bien habillé se présente. Il a son chapeau à la main et me tend sa carte. Je la prends. Luis Ziniaco, commissaire de police. Monsieur Dieudonné, me dit-il, monsieur le ministre de la Justice vous demande à Rio de Janeiro. Il veut vous voir. Le préfet de police m'a désigné pour vous accompagner. C'est un bien beau voyage et j'en suis tout heureux. Connaissez-vous Rio? Quelle merveille! Nous serons deux bons compagnons. Oh, je suis certain que nous ne nous ennuierons pas sur le bateau ni aux escales. Nous embarquons ce soir sur l'Itabera. Vous serez passager libre, bien entendu, libre comme moi. Savez-vous jouer au bridge? Et avec le commandant et le docteur, nous ferions une table. Le ministre de la Justice veut me voir, moi? Il le veut, monsieur Dieudonné. Eh bien, monsieur Londres, cette fois, écoutez-moi avec toute votre attention. Je m'assis sur mon lit et je crus perdre l'entendement. Chapitre 18. Un fameux voyage. Il est 6 heures le soir du même jour. Je crois bien que dans ma cellule, je cours encore après mon entendement. Un gardien ouvre la cage. Il me fait signe de prendre mon chapeau, de m'épousseter le mieux que je peux, de m'embellir, quoi. Il me manque tout pour reluire, alors il le comprend. Et je le vois partir dans le couloir et revenir, portant deux brosses, l'une à habit, l'autre à souliers. J'astique mes cuirs, je me bichonne, je suis prêt. Allons, dis-je, et l'on me conduit à la direction. Monsieur Luis Inigo m'y attend. À côté de lui, au port d'armes, le plus magnifique agent de l'État de Para. Il est jeune, grand et beau. Son uniforme est neuf. On ne voit pas de plus bel homme montant la garde à la porte de l'Élysée. Monsieur Zignano me le présente. L'agent 29. Les portes de la prison s'ouvrent devant nous trois et nous sortons. Dinamera me parque à 11 heures du soir, dit le commissaire. Je suis venu vous chercher avant. Comme cela, nous pourrons prendre l'apéritif, dîner à l'hôtel et gagner le port en fumant un bon cigare. Alors je dis, « Oh, merci, monsieur le commissaire, que vouliez-vous que je dise ?» Et nous nous arrêtons, place de la République, au café de la Passe. « Connaissez-vous un homme heureux ?» me demande monsieur Louis. « Oh, je vous remercie, » fis-je en souriant, « ce serait difficile si je me plaignais. »« Non, mais il ne s'agit pas de vous. » « L'homme heureux, c'est l'agent 29, regardez-le !» Il jubilait. C'était la récompense de 5 années de bon service. Dans son quartier, on ne voyait jamais traîner les boîtes à ordures. Il n'y avait ni chien errant, ni bataille. Quant aux dames de nuit, joli garçon comme il était, il les menait d'un seul clin d'œil. Et cela le désigna au choix. Il n'était jamais sorti de Para, alors... accomplir un voyage de 13 jours, visiter Pernambuco, Bahia, voir Rio, il n'en dormait plus. Il vivait l'un des plus beaux moments de son existence. Soudain, sous le coup du bonheur, l'agent 29 cherche ma main et me la secoue avec une reconnaissance que je n'oublierai jamais. On trinque, puis on boit et on va dîner. Alors nous voici à table. Un curieux défilé commence. Les gens qui entrent, Monsieur Louis les connaît. Ce sont des commissaires de police, des agents de la sûreté, des guardas civils. À chacun, mon hôte me présente, et c'est de leur part d'infinies protestations d'amitié. On parle toujours des poules qui trouvent un couteau. Il faudrait changer cela et mettre un peu à la mode le forçat qui rencontre la protection de la police. C'est un étonnement d'une bien meilleure qualité. « Au Para, vous êtes chez vous, » me disent tous ces messieurs. Alors je mets un gros cigare dans mon bec et je laisse courir. On se lève tous trois, il est 10 heures. Nous cheminons sans souci vers le port de Para. On y arrive. La prison avait fait porter nos bagages. Je reconnais la douane de ma vieille besace de Guyane. Je me baisse pour la charger et l'agent 29 se précipite et me la prend des mains. Je regarde partir avec attendrissement, manié non sans respect par le représentant de la loi, le dernier instrument de mon évasion. Dinamera est tout illuminé. Je trouve le bateau admirable. Après les pirogues d'Akupa et de Strong, vous pensez? Nous gravissons la coupée. Soudain, l'agent 29 opère un redressement prodigieux. Monsieur Louis s'incline. Le préfet de police et ses 2 adjoints sont sur le pont qui m'attendent. Dites-moi, bon vieux Dieudonné, n'est-ce pas un tout petit peu fort, cette dernière affaire-là? Le visage de l'évadé marqua un grand étonnement. Oh, non, ce n'est pas la peine de m'avoir écouté si longtemps si vous ne me croyez plus. Je ne dis que ce qui s'est passé. Le préfet et ses adjoints vous attendent. Après, il me serre la main. Les autres passagers tournent autour de nous. Ah, c'était curieux à voir. L'embarquement de Dieudonné pour Rio de Janeiro. C'est moi qui vous le dis. Ce fut un événement. Le préfet de police me demande de ne pas m'évader pendant le voyage. Je lui en donne ma parole et il ajoute... Si l'on ne vous extrade pas, revenez au Para, vous serez bien accueillis. Je la remercie. Un journaliste m'offre un cigare, le second préfet me tend une allumette. La famille de l'agent 29 qui l'accompagne jusqu'à bord vient me serrer la main. Je tends mes mains, ça n'en est pas assez pour tout le monde. Je sens même que l'on m'embrasse. Je veux me dégager. Et là, Jean 29 me fait comprendre que c'est sa mère. Alors, j'offre l'autre joue. La sirène meugle, les non-voyageurs descendent. Dernier cri, Elie Domera s'enfonce dans la nuit amazonienne. On vogue, oh, on vogue. Et le 9 juillet, c'est São Luís de Maranhão. Le 11, Portalesa. Le 12, Aira Branca. Le 13 au soir, une féerie, Pernambuco. Toute la journée, l'agent 29 a fourbi, astiqué, ciré. Il est prêt, ganté de blanc, revolver au côté, visière sur les yeux. Il attend de pied ferme ceux de Pernambuco. Et il saudra la gorge du premier policier qui osera m'appréhender. Nous bouillons, une vedette aborde et elle porte 30 investigadores de Pernambuco. Ils prennent le bateau d'assaut. Oh, aucun doute, ils vont m'enlever. L'agent 29 se met devant moi. Monsieur Louis va à la rencontre de la troupe. Je reconnais dans le nombre l'un de ceux venus à Belém pour m'arrêter. L'agent 29 me fait le petit signe qui signifie qu'il approche, vous allez voir. Une seconde vedette, 30 journalistes. Le plus petit commence à soutenir la thèse de Pernambuco et dit que Pernambuco aurait parfaitement le droit de m'arrêter. L'agent 29, champion de para, fonce sur lui. Et à minuit, les 60 visiteurs sont redescendus. Monsieur Louis, l'agent 29 et moi, tous trois installés au bar, nous buvons à notre amitié, à la victoire de para sur Pernambuco. Et comme nous sommes le 14 juillet, à la prise de la Bastille. Et c'est le lendemain, nous descendons à terre. Tous les journaux plaident dans ma faveur. L'un d'eux, à Noticia, annonce sur un immense placard pendu à son balcon mon arrivée à Recife. L'agent 29 me montre la chose. La foule, journal en main, me reconnaît. On s'écarte pour me laisser passer. Un homme m'offre un portrait de Saint Vincent de Paul avec une prière donnant 300 jours d'indulgence. Oh, le bon Dieu est plus généreux que les hommes. À 300 jours d'indulgence, pour une bonne pensée, notre grâce arriverait vite au bagne. Un capucin me serre la main. Mais l'agent 29 a soif, on va boire, on regagne, Itabera et départ. La mer est mauvaise, l'agent 29 est malade. Il me confie ce revolver, sa malle et ses bottes. Nous sommes 17 sur le pont, il n'a foi qu'en moi. Quand il va mieux et que je vais mal, il garde les affaires. Une orange, l'agent 29, un verre d'eau glacée, Eugène. Deux vieux et bons copains. Baïa, c'est la nuit. L'agent 29 me dit qu'ici, il compte s'amuser. Nous rencontrons un de ses amis de Para et nous partons voir les négresses. À 4 heures du matin, l'agent 29, debout sur une table, chante un fado. Je m'absente un instant, je reviens, mon gardien a disparu. Et le bateau part à 6 heures, mais où est passé mon gendarme? Je m'inquiète, j'appelle. Sa voix me répond. Il roucoule dans une chambre au premier étage. J'attends. 5 heures, mais il est long. 5h15. Oh, je monte et je frappe. Il m'envoie promener, alors je force la porte. Il ne veut rien savoir, et la négresse se cramponne à un si bel homme. Je tire par les pieds, je l'aide à s'habiller, je prends son revolver qu'il oubliait sur la table de nuit, enfin il me suit, en dégringolant de la haute dans la basse ville, il me disait « Pas si vite, Eugène !» Bien, nous n'avons eu que le temps de trapper l'Ilabera.